L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct Drôme-Ardèche.
Bonjour à tous, bonjour Anthony.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, alors Ardiana n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue, elle est avec nous à distance.
Bonjour Ardiana.
Aujourd'hui c'est notre 18e numéro et donc on commence même notre 3e saison de l'Europe du côté de chez nous. Et pour cette 18e épisode, disons, on va pas parler d'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui est donc à l'honneur et nous avons aujourd'hui la ferme Bio Margerie qui est à Portes-les-Valences qui est là et en personne de Marie Margerie que nous accueillons. Bonjour Marie.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous avons souhaité inviter votre ferme, une ferme qui existe depuis bien longtemps, 35 ans je crois. Et qui donc est aussi exemplaire dans un certain nombre d'activités en lien avec l'environnement et dont vous allez nous parler tout de suite. Mais ce qui m'a aussi plu tout de suite quand je suis allée voir votre site internet, c'est le slogan qu'on voit tout de suite: pensée globale, action locale. Et forcément, quand on parle d'Europe et qu'on parle d'agir au niveau d'un continent, au moins peut-être pas au niveau global, mais au niveau d'un continent, ça m'a parlé ce slogan. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre ferme, d'où elle vient? Je crois que c'est une longue histoire de famille, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était la ferme Margerie avant. C'est devenu la ferme Bio Margerie en 79 quand mes parents se sont installés.
D'accord.
Avec la volonté d'avoir une agriculture un peu différente de ce qui se faisait à leur époque. Quelque chose de plus respectueux de l'environnement et de l'humain. Et déjà, à cette époque-là, on peut dire que l'Europe avait son rôle à jouer dans le sens où les modèles desquels ils se sont inspirés, notamment dans l'agriculture biologique, venaient en grande partie d'Allemagne, de Hollande, un peu de Suisse. Et on trouvait beaucoup de documentation et d'exemples qui venaient de ces horizons-là, chose qu'il n'y avait pas à l'époque sur notre territoire, qui aujourd'hui est un territoire plutôt mobilisé.
Oui. Qui a fait des avancées sur le domaine de l'agriculture bio.
Voilà. Mm. Comme quoi, on en fait des choses en 40 ans.
ça va, ça nous redonne espoir. Oui, vous avez donc une activité uniquement dans le bio.
Alors oui, c'est-à-dire que la ferme a eu plusieurs vies et plusieurs métiers dans son déroulement. Mm-hmm. C'était une ferme polyculturelle à l'époque des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et mes parents ont ouvert un petit point de vente direct. Au début, ils étaient maraîchers et arboriculteurs et ont installé un atelier de transformation de jus de fruits avec cette vision et cette envie de ne pas gaspiller et d'utiliser aussi ce qui n'était pas vendu en fruits de table. Et très vite, cet atelier de jus de fruits a également servi aux autres producteurs environnants puisqu'on s'est mis à faire de la prestation de service, donc du façonnage. Mm-hmm. Pour les producteurs qui nous apportaient leurs fruits et qui repartaient avec le jus de leurs fruits.
D'accord.
Voilà. Aujourd'hui, c'est 18 hectares de verger et donc un atelier de jus de fruits qui a pris de l'ampleur et qui continue à proposer des fabrications et des prestations pour les producteurs environnants, plus notre gamme de jus de fruits en marque propre. On fait avec les fruits de nos vergers, mais pas que. On fait aussi avec les fruits qu'on rachète à nos confrères producteurs, ce qui nous permet d'avoir une plus grande diversité variétale.
D'accord.
Et puis ce qui permet un peu de travailler en lien aussi avec les exploitations ou autres. Et puis, c'est bien, ça fait du réseau, ça fait bouger, ça fait qu'on voit du monde.
Et donc, en effet, donc, en parlant de comme je le disais au début, d'Europe, comment votre exploitation en est venue justement à considérer la dimension européenne ?
Alors bon, différentes choses. Déjà, depuis le départ et l'envie de s'orienter vers une agriculture différente, il y a toujours eu de la bibliographie et de la documentation qui émanait d'autres pays d'Europe.
D'accord.
Et qui avaient déjà avancé plus sur ces sujets-là que ce que la France l'avait fait.
Comme l'Allemagne et la Suisse dont
voilà,
tu parlais.
Tout à fait. Ensuite, il y a eu des dimensions, on va dire, plus de l'ordre de machinerie, de mécanique.
Mmh.
Aujourd'hui, notre pressoir, par exemple, est une marque suisse. Parce que les pays ne transformaient pas initialement tous de la même façon. Et qu'en France, c'est la transformation du jus de raisin, la vinification, etc., qui a emmené après à transformer d'autres choses, bien qu'il y ait toujours eu des pressoirs. Alors que dans certains pays, il y avait peut-être un peu moins cette culture de raisin,
et oui.
Ce qui favorisait la transformation d'autres fruits et du coup d'autres systèmes.
D'accord.
Voilà. Et après, il y a eu le fait que... Donc, moi, je suis revenue il y a une dizaine d'années avec comme projet de reprendre l'entreprise de mes parents. Et pour reprendre cette entreprise, c'est-à-dire que pour qu'elle perdure, il fallait qu'elle évolue, il fallait qu'elle grossisse. Parce que les matériels étaient vétustes, les bâtiments n'étaient plus aux normes contemporaines.
Mm-hmm.
Donc, pour pouvoir... perdurer et continuer, il fallait pouvoir réinvestir. Et c'est des matériels qui coûtent vite cher parce que beaucoup d'inox, beaucoup d'automatisme.
Ouais.
Et que bon, le jus de fruits, ce n'est pas un produit qui se valorise comme on valorise une bouteille de vin. Ce n'est pas le même type de marge.
Mmh.
Donc, ça nécessitait de grossir pour continuer à durer, en fait.
Mmh.
Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que bon, si on essayait de faire le financement de tout ça tout seul dans notre coin, avec les partenaires banquiers, etc., on risquait de mettre le pied dans quelque chose qui était très long. On risquait de vraiment mettre du temps à arriver au bout de tout ça. Et on risquait aussi d'avoir à fournir des garanties qui étaient énormément de pression.
Ouais.
Et les différents agents du département nous ont dit, ben voilà, il y a des dossiers de financement où la région participe, où le département participe et où l'Europe participe. Et c'est ces dossiers-là, avec toutes les contributions européennes, ça s'appelle le FEADER.
Oui, c'est ça.
Qui nous a permis de pouvoir racheter une ligne d'embouteillage contemporaine, voilà, aux normes tant agroalimentaires qu'aussi pénibilité, parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui comme on travaillait hier. Et qui nous a aussi permis de pouvoir commencer à transformer des fruits à noyaux, parce que jusqu'à présent, on ne transformait que des fruits à pépins et à grappes.
D'accord.
Ça nous a permis de pouvoir faire du nectar d'abricots, du nectar de pêche, qui sont des productions qui, même si elles sont bien moindres qu'il y a 20 ou 30 ans dans le bassin rhodanien, sont toujours très présentes.
Oui, elles sont excellentes d'ailleurs. Voilà. je recommande vos jus de fruits, ils sont très bons.
Et du coup, voilà, ça c'est ce coup de pouce qui nous a permis de pouvoir répondre à un besoin local, continuer à être un acteur territorial, à continuer. On a des réseaux, on n'est pas tourné vers l'export, on a des réseaux en grande partie régionales et un petit peu nationales. Et c'est parce que tout ça s'est imbriqué qu'on a pu continuer à agir localement grâce à des démarches qui étaient européennes.
D'accord. Donc là-dessus, vous avez pu être accompagné et c'était, j'imagine, assez complexe. C'est ce qu'on nous fait comme retour en termes de dossier. Ou pour vous, vous n'avez pas trouvé ça justement
C'est des dossiers qui nécessitent effectivement du temps, qui nécessitent d'être un peu pédagogique sur notre propos. D'un autre côté, je trouve quand même ça rassurant que quand on prête des sommes à 6 chiffres à des entreprises, ce ne soit pas un formulaire à 5 avec nom et prénom.
C'est sûr.
Voilà, et puis il y a des engagements aussi. C'est-à-dire qu'on s'engage à consommer de la matière locale, on s'engage à créer des emplois durables. Voilà, c'est pas juste on tape à une porte, on donne des sous, merci, au revoir. Donc, effectivement, c'est des dossiers qui sont conséquents, on comprend aussi pourquoi. C'est de l'argent public, c'est normal que ce soit justifié, quand on demande qu'on sache justifier pourquoi, que ça puisse être suffisamment pédagogique pour que les personnes qui étudient le dossier aient pas à devenir un professionnel du jus de fruits pour savoir s'ils financent quelqu'un qui fait du jus de fruits, puis un professionnel de la laiterie pour celui qui veut faire une laiterie, etc.
Ouais.
Et après, il faut savoir aussi qu'il existe un tissu de conseils au niveau du département comme au niveau de la région, de gens qui peuvent épauler la constitution de ces dossiers. Il y a des consultants qui s'en sont fait leur spécialité. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on peut être épaulé par des fonds de formation, des choses comme ça, pour que ce ne soit pas complètement à la charge de l'entreprise.
Du coup, vous avez pu être accompagné dans toute la construction du dossier ?
Alors, en fait, j'en ai fait deux d'effets ADER. Le premier, je l'ai fait toute seule, mais c'était à une époque où mes parents étaient encore en activité, j'avais moins de charges, que même si ça faisait un petit moment que j'étais sortie de l'école, j'avais encore en tête certaines choses.
La rédaction, voilà.
Et le deuxième, par contre, j'avais repris derrière mes parents. Clairement, en termes de temps, ça ne nécessitait pas. C'était pas gérable. Et là, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a épaulé sur la rédaction de ce dossier. Ouais.
Ouais. Okay. Vous parliez aussi tout à l'heure, de la chambre de commerce également.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est en train de regarder pour pouvoir transformer des grenades, parce qu'il y a de plus en plus de confrères producteurs qui plantent des grenades sur le territoire. Et comme la plupart des fruits, c'est-à-dire qu'il y a le fruit frais, puis il y a le fruit qui va être déclassé, et du coup, on cherche des débouchés de transformation.
Oui.
Donc, on s'est posé la question de savoir... la grenade, on pouvait la transformer en utilisant des méthodologies et des outillages qui servaient, pareil que pour le raisin, des fouloirs, des choses comme ça. Et on s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas des bassins qui ont l'habitude de transformer de la grenade? Et comment est-ce qu'ils le font? Et là, quand on est allé vers la chambre de commerce, ils nous ont orientés vers...
Le réseau Entreprises Europe Network.
C'est ça, pour trouver justement, alors c'est un dossier qui est en cours, mais pour trouver des confrères et des conseillers techniques sur des pays, notamment plus vers la Grèce, où il y a plus de production de grenades, que du coup, ils ont plus d'expérience là-dessus. Et que ça peut nous donner d'autres façons d'envisager cette transformation pour arriver à quelque chose qui soit adapté aux fruits qu'on transforme.
Et sur ce, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'avais aussi une curiosité par rapport à votre la politique agricole commune. Et c'est il y a pas mal d'exploitations agricoles qui sont assez certains exploitants qui sont même carrément critiques par rapport à cette politique. Vous la voyez comment? Est-ce que vous la voyez comme quelque chose d'utile, un soutien indispensable, ou au contraire qui un frein, ou quelque chose qui irait dans une direction vers laquelle on ne voulait pas aller?
Alors, je ne pense pas que je suis assez documentée, renseignée sur toute l'ampleur de la politique agricole commune pour pouvoir clairement m'exprimer sur le sujet.
C'est assez vaste.
Voilà, c'est assez vaste. Et ensuite, y a toujours une différence entre la volonté théorique et l'application. Donc, à mon avis, il y a des différents axes de la politique agricole commune qui peuvent être pertinents et qui peuvent servir ce pourquoi elle a été mise en place, et probablement d'autres axes qui peuvent être plus discutables, plus facilement contournés et qui justement peuvent desservir cette politique. Voilà, donc je suis pas du tout une spécialiste.
Non, mais je comprends bien, c'est quelque chose qui est très technique aussi, mais voilà, c'était juste pour avoir votre point de vue sur la question, parce que je sais que voilà, dans le monde agricole, il y a des fois des avis très tranchés par rapport à cette politique. Certains la rejettent, d'autres sont tout à fait en soutien. Donc voilà, c'était pour avoir...
Alors, c'est vraiment très différent en plus en fonction de si on parle d'élevage, si on parle d'arboriculture. Et il y a aussi le côté des... comme il y a une ouverture des marchés, c'est ça aussi qui a regardé en face, quoi. Donc voilà, je sais que pour l'agriculture biologique, la conversion à l'agriculture biologique, il y a eu pas mal de fonds qui sont venus de la politique agricole commune.
Tout à fait.
Voilà. Alors, comme je vous le dis, je ne suis pas du tout une spécialiste là-dessus. Mais la politique agricole commune a participé au développement de l'agriculture biologique au niveau européen. Et il ne faut pas oublier que, voilà, quand on parle d'agriculture respectueuse de l'environnement, on parle d'eau, on parle d'air, on parle de choses qui n'ont pas de frontières. Donc, en fait, si on fait... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, jamais. Mais ça veut dire que il y a une vraie pertinence à ce que...
On travaille au niveau européen là-dessus,
voilà,
sur ces questions-là.
Parce que c'est des ressources communes.
C'est impossible de se limiter à un territoire, la Drôme, la région ou la France. Voilà, c'est des questions qui doivent être abordées ensemble. Ouais. Mm-hmm. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage. On vous remercie et puis au plaisir de se rencontrer ou à votre boutique. Donc,
on est à Porte et Valence. On vend exclusivement aux professionnels, aux cafés, hôtels, restaurants, aux épiceries, aux commerces traditionnels, voilà, aux lieux d'accueil ou pour l'événementiel, des choses comme ça. Par contre, sur notre ferme, il y a également une boutique qui s'appelle Comme Trois Pommes et qui est une épicerie bio vrac locale et de saison avec une petite cantine du midi, donc un restaurant du mardi au samedi midi.
Merci beaucoup, on viendra vous voir là-bas. Merci.
Merci beaucoup.
Et maintenant, place à une petite pause musicale. Tu nous as préparé quelque chose, Anthony, je crois.
En effet, pour danser au rythme de nos voisins, je vous propose d'écouter Imfert Geblieben du groupe Maul Gruppe.
Oula, ça, ça déménage. On était donc
en allemande.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Là. C'est la qualité de la pop, je sais pas, non, rock,
ambiance
rock allemande.
Berlinoise.
C'est ça. Bon, alors maintenant, passons à l'agenda d'Europe Direct pour octobre et novembre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Anthony? Peut-être d'abord, avant toute chose, j'aimerais t'accueillir, puisque c'est la première fois que tu participes à notre émission L'Europe du côté de chez nous. Tu viens démarrer un contrat d'alternance avec la Maison de l'Europe de Drôme-Ardèche. Bienvenue.
Exactement. Merci. Merci à toi de m'accueillir, que ce soit à Europe Direct ou dans cette émission. Et je m'appelle tout simplement Anthony, je vais côtoyer Europe Direct pendant un an, vous aurez l'occasion de m'entendre encore, mais tout de suite, c'est l'agenda d'Europe Direct.
Alors, que tu nous proposes pour ce mois d'octobre ?
Alors, tout d'abord, je vous propose de célébrer la Journée européenne des langues et les Erasmus Days. Et c'est dans ce contexte que le 13 octobre, vous nous croisez place Porte Neuve avec tous nos partenaires pour vous parler multilingue, pour vous parler multiculturel, et pour vous accueillir, répondre à toutes vos questions.
Super, donc les Erasmus Days, c'est les 14, 15, 16 octobre dans toute l'Europe. C'est pour justement célébrer ce fameux programme de la mobilité des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs.
Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à passer nous voir sur nos événements, comme le 14 octobre par exemple, où vous nous croiserez au marché d'été à Guérangrange de 16h à 19h30 avec nos bénévoles, nos membres d'équipe. On aura nos petits jeux de loi, nos petites documentations, et vous pourrez une nouvelle fois poser toutes vos questions et obtenir les réponses.
Super. Et puis, il y a une nouveauté aussi au niveau de notre local de la Maison de l'Europe, rue Victor Hugo à Valence, c'est ça ?
Parce qu'on inaugure, on donne enfin une vie à notre local, Victor Hugo, oui. Ce sera des permanences les premiers et troisièmes lundis du mois au matin, en même temps que le marché à Victor Hugo. Vous nous croiserez aussi le jeudi après-midi, le troisième et le quatrième jeudi du mois. On y sera de 15h à 18h. Et pour lancer tout ça du meilleur pied possible, le lundi 18 octobre, dans la soirée à partir de 18h, nous ferons une soirée au sujet des actualités européennes avec Alain Réguillon. Bon, je t'embrasse.
Et Ardiana Tosca, qui sont tous les deux administrateurs, administratrices de la Maison de l'Europe de Drôme-Ardèche, et qui vont nous faire nous parler des enjeux de cette actualité européenne, notamment avec les élections allemandes qui sont, voilà, on va en parler justement dans la suite de cette émission. C'est le grand suspense de savoir qui va être nommé chancelier prochainement. Donc ça, si vous voulez parler de l'actualité européenne, rendez-vous donc lundi 18 octobre à partir de 18h au local de la Maison de l'Europe de Drôme-Ardèche au 186 avenue Victor Hugo.
Exactement. On fait un petit bond dans le temps, on tombe sur le mercredi 9 novembre, on sera à Saint-Étienne pour parler pour le hackathon. Et là, Anna, on se demande tous, qu'est-ce qu'un hackathon ?
Un hackathon, c'est un marathon créatif pour créer du contenu en ligne, comme un jeu de piste, un escape game. Et c'est des jeunes de la Maison familiale rurale de Saint-Étienne qui vont créer avec nous, et avec l'aide du Canopé, c'est le centre de documentation départemental, qui vont créer avec nous du contenu pour parler d'Europe aux jeunes.
Comment parler d'Europe aux jeunes ? Voilà une question et voilà des réponses qu'on va essayer d'apporter ce 9 novembre au hackathon à Saint-Étienne.
Tout à fait.
On se retrouvera ensuite pour parler mobilité. La mobilité, c'est au cœur de l'Europe et on organise le forum mobilité jeunesse, jeunesse en mouvement d'ailleurs, désolé, à Annonay le 24 novembre. Ce forum sera ouvert à tous de 13h à 19h. Il aura son voisin valentinois le 1er décembre.
Exactement.
Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce forum.
Ben, le forum Jeunesse en Mouvement, c'est vraiment l'opportunité pour les jeunes du coin, surtout de 16 à 30 ans, disons, de venir chercher des infos sur toutes les possibilités qui peuvent exister pour les aider à partir à l'étranger, pour apprendre une langue, pour faire des études, pour faire un stage, pour faire un séjour au pair, pour faire un chantier international, du volontariat. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. On ne les connaît souvent pas toutes. Et on ne sait pas forcément aussi qu'il y a des soutiens techniques, des accompagnements et des accompagnements aussi financiers pour cela. Et donc voilà, on a créé avec les partenaires de la mobilité pour les jeunes en Drôme-Ardèche ces deux forums. Un donc, comme tu disais, à Annonay le 24 novembre et un autre à Valence le 1er décembre.
Voilà. Si vous rêvez d'espace et de voyage, mais que vous ne savez pas par où commencer, c'est à ces forums qu'il faut vous rendre et on aura encore une fois le plaisir de vous accueillir avec tous nos partenaires pour répondre à toutes vos questions et vous encourager à partir découvrir les pays qui nous entourent.
Voilà, et puis pour finir au mois de novembre, il y a aussi des rendez-vous pour les professionnels.
En effet, on a des événements à destination des professionnels, notamment de la pédagogie et du développement jeunesse, avec notamment un atelier de formation à nos mallettes pédagogiques. Anna,
oui,
est-ce
c'est
que tu
ça.
Peux nous présenter nos mallettes pédagogiques?
Oui, la mallette pédagogique Europe et Mobilité, c'est des outils, des jeux, des animations que les professionnels, comme tu le disais, qui accompagnent les jeunes ou les enseignants, peuvent, enseignants, documentalistes, CPE, peuvent utiliser pour parler d'Europe et parler de mobilité aux jeunes avec qui ils travaillent. Et donc, ces ateliers-là, c'est toute une après-midi. Bien sûr, ils sont gratuits, accessibles en entrée libre. Et il y en aura deux au mois de novembre. Le 19 novembre, à la MJC Ninichez de Oust-sur-Sis, à côté de Cré. Et puis, le 25 novembre, ce sera à Privas. Voilà.
Parler d'Europe, c'est important. Comment, c'est une bonne question. Et nous essayons de vous présenter les outils qui existent, que nous avons créés et que nous mettons à votre disposition pour tous et toutes.
Voilà, merci beaucoup Anthony pour cet agenda qui est déjà pas assez chargé hein, pour le mois d'octobre et novembre.
Un agenda déjà assez soulevé, soutenu, très rythmé.
Bon, pour maintenant se remettre de ses émotions, on va proposer une nouvelle pause musicale.
Une nouvelle petite pause tout en douceur, une pause allemande encore une fois. Et cette fois, ce sera avec le groupe Ya Panik. Panik, exactement. J'ai parlé de douceur. Écoutez Zwischen zwei und vier.
Voilà, donc du coup, c'était Zwischen zwei und vier.
beaucoup plus doux au final que le premier.
En direct de Bruxelles.
Et en direct de Bruxelles, nous accueillons aujourd'hui Romain Galati. Alors, il n'est pas en direct de Bruxelles, il est en direct de Valence. Bonjour Romain.
Bonjour Anna.
Bonjour Romain.
Voilà, on t'accueille dans cette rubrique en direct de Bruxelles pour faire un focus sur l'actualité européenne et parce que cette fois-ci, nous voulions parler des enjeux pour l'Europe autour des élections les élections allemandes qui ont eu lieu récemment. Et Romain Galati, tu es fondateur de l'association franco-allemande de la Drôme. Donc voilà, on pensait qu'à ce titre-là, tu étais tout à fait pertinent pour pouvoir nous parler de ce sujet.
Bah, merci pour votre invitation et oui, avec plaisir pour vous parler des élections allemandes qui sont un moment très important pour le pays parce que Angela Merkel, qui était la chancelière depuis 16 ans, oui. Elle a fait 4 mandats. Ouais. Les mandats en Allemagne, ça dure 4 ans. C'est une page qui se tourne en Allemagne avec le départ d'Angela Merkel et donc prochainement un nouveau ou une nouvelle chancelière.
Tout à fait. Donc, c'était le 26 septembre dernier, hein. Il y a déjà quelques temps, mais ce n'est pas encore fini en fait. On n'a pas encore la fin de l'histoire, le fin mot de l'histoire, si j'ai bien compris.
Non, il va falloir s'armer un peu de patience parce qu'en fait, l'élection allemande, c'est un scrutin à un tour où les Allemands votent pour leurs députés. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en fait des élections législatives, hein. Ce n'est pas des élections présidentielles. En Allemagne, le président allemand existe, mais il n'a qu'un rôle honorifique. Et il est là pour représenter les institutions. Celui qui gère le gouvernement, c'est le chancelier. Et le chancelier est élu par les députés. Donc chaque parti a fait un certain score, un certain pourcentage. Et ensuite, donc l'objectif est d'avoir une majorité, c'est-à-dire 50% plus une voix, pour pouvoir diriger un gouvernement. Et donc pour cela, les partis doivent s'entendre et faire des coalitions.
Oui, donc c'est un système complètement différent de ce qu'on connaît, nous, en France.
C'est pour ça que les partis...
Exactement, c'est une culture de compromis et une culture de discussion parce que, évidemment, quand on sait qu'on va travailler avec les autres partis, eh ben, on va éviter de leur taper dessus trop violemment pendant la campagne. Donc parfois, c'est un peu critiqué d'ailleurs en disant que qu'on vote droite ou gauche, c'est à peu près la même chose, c'est juste une histoire de curseur qu'on place. C'est bien sûr un peu plus complexe que ça dans la réalité. Mais en effet, il y a une certaine culture de stabilité et de compromis en Allemagne qui est très très différente de la France.
Ouais. Et donc, du coup, là, on se s'oriente vers quel scénario possible, en fait, de coalition ?
Alors, il y a beaucoup d'options sur la table, sachant qu'en termes de résultats, la grande surprise, c'est d'avoir eu le candidat des sociaux-démocrates, Olaf Scholz, qui a fait le meilleur score et qui a d'ailleurs fait un score... personne n'attendait les sociaux-démocrates à ce niveau-là. C'est un peu comme le PS chez nous, c'était un peu en perte de vitesse.
D'accord.
Et donc, ils ont fait un très très bon score, tandis que la droite d'Angela Merkel s'est effondrée, a fait moins 8% par rapport aux dernières élections. Leur candidat, Armin Laschet, est plutôt vu de façon très négative.
D'accord.
Par contre, le candidat du SPD, c'est lui qui a l'initiative pour former un gouvernement. Les discussions actuelles, l'option la plus probable, ce serait une coalition à trois, donc avec les sociaux-démocrates d'un côté, les Verts et les libéraux du FDP, ce qu'ils appellent une coalition feu tricolore, parce que ça fait les couleurs jaune, rouge et vert.
D'accord.
Comme un feu tricolore. Donc une Ampel Coalition, ils appellent ça en allemand. Ce qui n'est pas si simple que ça, parce que les Verts et les libéraux n'ont pas forcément des positions très proches sur beaucoup de sujets assez importants, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur l'économie, sur le social. Ils ont des sujets, des grosses divergences. La candidate des Verts a dit récemment dans la presse qu'elle était prête à discuter avec les libéraux dans l'espoir de former un gouvernement.
D'accord.
Donc c'est ce qui semble être la proposition la plus probable.
D'accord,
à voir si ça se concrétise maintenant.
Donc là, ça doit aller bon train en termes de négociation. On pense en fait, c'est quoi les délais ? Tu penses qu'on va avoir un gouvernement, un chancelier, quand ? C'est quoi les
chances ? Si on l'a pour Noël, ce sera bien.
D'accord, ok.
Je pense que ce sera. Il faut quand même attendre un petit peu avant de l'avoir. Sachant qu'on n'est pas au bout de quelques surprises, on sait que les Verts, par exemple, ont parfois fait preuve d'une certaine radicalité sur certains sujets. Donc, il peut y avoir des points de blocage assez essentiels dans la discussion.
D'accord, ok.
Est-ce que le nombre de voix récoltées à ce premier tour donne un énorme impact au sein de la coalition, c'est-à-dire, je m'explique, si jamais je me présente que j'ai fait 35% et que je m'allie avec quelqu'un qui a fait 12%, est-ce que de fait ma voix compte plus ou est-ce que
par la
suite dans le gouvernement exactement.
Mm-hmm. C'est dans le gouvernement, les voix après le nombre de postes au gouvernement sont répartis en fonction du nombre de voix. Mais alors faudrait vérifier, mais il me semble pas qu'il y ait vraiment une loi qui définisse ça. C'est plus après une question de pratique politique et de logique où on essaie quand même de conserver les équilibres et de faire que les gens soient représentés. Enfin, le SPD, les sociaux-démocrates n'accepteront pas d'avoir qu'un ministre, par exemple. Par contre, est-ce que la vice-présidente, enfin la vice-chancellerie, est-ce qu'elle est donnée aux Verts ou aux libéraux? Peut-être que pour faire pencher les libéraux sur certains sujets, ils vont leur donner une vice-chancellerie, par exemple.
D'accord.
C'est des discussions politiques après de la négociation, et ça, ça peut être des gros enjeux.
Ouais. Okay. Et du coup, l'Allemagne, donc on le sait, c'est quand même la première puissance économique de notre continent. En termes de population aussi, le pays le plus gros dans l'Union européenne, donc du coup un point important, membre fondateur de l'Union européenne, donc clairement un poids important sur les décisions européennes. Et on sait que voilà, le tandem, comme il l'appelle, le couple franco-allemand, le tandem franco-allemand est moteur ou peut être justement freiner certaines décisions. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à... Bon, nous, on va aussi avoir un changement potentiel de gouvernement, de présidence. Donc, comment tu vois les choses à ce niveau-là?
Alors, chez nous, c'est sûr qu'à minima, il y aura un changement de gouvernement. Après, de présidence, ça, on verra en avril prochain. C'est une période assez incertaine parce que est-ce que ce sera quelque chose qui va être mis en avant? C'est vrai que le couple franco-allemand entre Macron et Merkel fonctionne plutôt bien.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un peu une surprise par moment parce que Angela Merkel n'avait pas caché qu'elle préférerait avoir un président de la même couleur politique qu'elle, donc de droite, pour ses partenaires. Mais finalement, ils ont réussi à bien s'entendre et même elle a accepté des demandes françaises assez anciennes comme la question de la dette européenne qui était loin d'être validée en Allemagne, comme quoi les lignes ont pu bouger. Si c'est le candidat des sociaux-démocrates qui passe, et partant du principe que ce soit avant les élections françaises, donc on est toujours le même président en France, on peut s'attendre à ce que l'Europe aille un peu plus en direction de la gauche, notamment parce que même s'il y a les libéraux dedans, donc les libéraux en plus sont partenaires de En Marche, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne s'entendent pas, mais il y aura quand même une coalition qui sera majoritairement sociaux-démocrates et verts, donc quand même qui va pencher à gauche. Donc, il y aura probablement quand même, une inclination de l'Europe, de la position allemande un peu plus à gauche, un peu plus de ce que faisaient les sociaux-démocrates jusqu'à présent.
Quelle coalition aimerait voir M. Macron en place chez nos voisins allemands pour la continuité de nos politiques à nous ?
Alors, je ne vais pas répondre à la place de notre président. Il n'y a que lui qui le sait. Je pense que la relation franco-allemande, par l'histoire, a montré que, quelque part, c'était au-delà des questions de couleur politique. Quand on prend, par exemple, Kohl et Mitterrand, Kohl était de droite et Mitterrand est un président de gauche. Et ça ne les a pas empêchés de faire des grandes avancées européennes. Mmh. Et peut-être même mieux que quand c'était du même parti politique, parce qu'ils ont dû avoir cette culture du compromis et de dire que l'Europe, ce n'est pas une question de gouvernement de droite ou de gauche, mais c'est pour l'Europe, et qu'ils ont réussi à faire des grosses avancées. Donc au niveau de l'élection allemande, en tout cas, qui a eu lieu en septembre, l'Europe n'était pas le sujet prioritaire, c'était même un sujet relativement absent des débats politiques. Ils ont plutôt parlé d'environnement, ils ont parlé de santé, parce que la question de la vaccination en Allemagne, elle est un peu plus en retard que ce qui se passe en France. Et puis ils sont dans une situation un peu de blocage. Ils n'arrivent pas à faire progresser la vaccination. Donc ils ont des inquiétudes plus sur les questions de santé. L'Allemagne est en plus un pays assez vieillissant, donc la question du troisième âge, il y a des gros enjeux. Donc la question de l'immigration dans les débats en Allemagne était assez secondaire. Ça a été un gros sujet il y a quelques années, notamment quand il y a eu la crise des migrants en 2015.
D'accord.
On sait que l'Allemagne a accueilli énormément de migrants à ce moment-là et que ça a été un point assez majeur de la politique allemande récente. Mais quelque part, sur ce vote-là, sur cette élection-là, ce n'a pas été un sujet très important. Et d'ailleurs, on remarque que le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, AfD, est en recul. Donc, ce n'était pas tant le sujet que ça, alors qu'en France, c'est un sujet qui vient très régulièrement. En Allemagne, c'était plutôt sur les questions d'écologie, les questions d'économie, et la question sanitaire.
Et puis le social et la santé, d'accord. Bon, bah écoute, on va suivre ça de près donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis, on te proposera peut-être de venir en reparler, justement, une fois que cette coalition, le gouvernement, le ou la chancelière seront nommés pour rediscuter de cela, parce que c'est vrai que c'est passionnant, ces sujets. Et puis, ça nous concerne. Voilà, c'est notre voisin, un de nos plus importants voisins en termes de taille. Et puis, ça concerne les politiques européennes de près. Donc, merci beaucoup, Romain. Et puis, d'ailleurs, on te retrouve également sur l'un de nos événements tout prochainement, le 13 octobre, sur la Journée européenne des langues et Erasmus+, avec l'association franco-allemande de la Drôme. Vous serez présent.
Exactement. Donc, vous pourrez venir sprechen Deutsch avec nous.
Super, merci beaucoup.
Sehr gerne.
Merci beaucoup, Romain. Et donc, à très bientôt.
Bye merci bye. Beaucoup pour l'invitation. Au revoir.
Au revoir. Eh bien voilà, Anthony, notre émission arrive à sa fin.
Merci encore pour l'invitation.
Eh bien écoute, on se retrouve le mois prochain. Merci donc à Ardiana qui n'était pas présente aujourd'hui, mais qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à Marie-Marjorie de la ferme bio Marjorie pour son témoignage et à Romain Galati de l'association franco-allemande de la Drôme pour son témoignage et son commentaire, surtout au sujet des élections allemandes. À très bientôt. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction, Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.